je travaille sur deux tribunaux pénaux internationaux, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, parce que je travaille sur les conflits en Bosnie, sur les groupes armés en Bosnie. Et puis, j'ai travaillé comme anthropologue à l'intérieur d'une chambre de la Cour pénale internationale, comme anthropologue pour le CNRS, pas pour la chambre, pour regarder le travail de qualification des faits par ce tribunal dans une affaire enfant-soldat Congo. L'affaire Katanga. Et donc, je me suis mise à travailler ces 5-6 dernières années sur des groupes armés à l'est du Congo, en Ituri, des groupes d'allure Maïmaï, avec des traditions et des répertoires d'action de type Maïmaï. Et puis, je suis à présent le procès de Dominique Ongwen, qui est un des chefs de la Lord Resistance Army, qui, comme vous le savez, peut-être, est une armée qui fonctionne presque exclusivement sur l'enlèvement d'enfants de son propre groupe, le groupe Patchouli, et qui enlève ses enfants à un âge variable, qui peut être jeune, les force à mettre en place des transgressions graves, un peu sur le modèle de... Et puis, les engage dans les hostilités. C'est peut-être la seule chose d'allure générale que je vais vous dire tout de suite pour que vous compreniez. La seconde chose, peut-être, c'est que ce groupe, l'Ordre de Résistance Armée, est un groupe extrêmement mobile qui se déplace beaucoup au nord de l'Ouganda, mais aussi jusqu'en Centrafrique et en République démocratique du Congo. Voilà pour les généralités. La Cour pénale internationale, au début de son mandat, au tout début de son mandat, a reçu de la part du gouvernement ougandais, du gouvernement Museveni, une demande de renvoi de la situation. Demande de renvoi veut dire que le gouvernement ougandais demandait à la Cour de prendre en charge le jugement de ce que la CPI appelle la situation au nord de l'Ouganda. Donc, ce que je vais faire là, c'est d'essayer de vous présenter les péripéties d'un mandat d'arrêt. Pour que vous compreniez les difficultés qu'a eu cette cour à ses débuts, mais de la même façon aujourd'hui, à arrêter les personnes qu'elle cible dans sa politique de poursuite et dans le type de sélection des poursuites qu'elle a entrepris, je vais essayer de vous montrer dans quel monde enquête le procureur de la CPI. Quel est le monde, quelle est la texture du monde dans lequel enquête la CPI. C'est une texture déjà très pleine de dispositifs post-conflit. Elle n'arrive pas comme ça. Elle arrive dans une situation de guerre, de conflit armé violent, d'une part, et d'autre part, dans un monde bourré de dispositifs de post-conflit à toutes échelles, ayant chacun leur agenda. Et elle a un autre type d'agenda, un agenda de poursuite des crimes de guerre, sur un certain nombre de violations. Ce que je vais vous raconter, donc, c'est une scène d'arrestation, une péripétie de mandat d'arrêt, mais une scène d'arrestation qui dure 11 ans. Je ne vous parlerai que de quelques mois. Des 5 personnes sous mandat d'arrêt dans cette affaire, une seulement a été arrêtée à ce jour, 11 ans après la publication des premiers mandats d'arrêt, Dominique Ongwen, un des chefs du groupe armé LRA, et il est actuellement jugé à la CPI. J'étais à ses audiences il y a 2 jours. 2 sont morts parmi les 5, et 2 se cachent dans un autre État africain, la République centrafricaine, parmi eux, Joseph Kony. Je vais en 2 mots vous présenter quelques éléments pour que vous compreniez de ce que cette cour, la Cour pénale internationale. Vous savez qu'elle a elle ne peut juger que trois types de crimes, et uniquement trois types de crimes, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide. Et qu'elle a, elle ne peut poursuivre, ses modes de saisine sont trois, soit le procureur peut se saisir d'une situation proprio motu, de son propre chef, considérant qu'il a reçu des renseignements tels qu'il peut commencer à diligenter une enquête avec, la cour d'une chambre, avec l'accord d'une chambre préliminaire, soit le Conseil de sécurité peut faire appel à la chambre pour appeler au fait qu'une situation soit jugée, soit un État demande au procureur de se saisir d'une situation dans son propre État. Alors, je vous dis tout de suite que, bien entendu, il est un peu compliqué qu'un État se saisisse d'une organisation pénale internationale pour arrêter un groupe rebelle. Si on l'appelle groupe rebelle, et il va falloir se poser la question de ce qu'est un groupe rebelle. Et bien entendu, des situations d'auto-renvoi, c'est-à-dire quand une cour reçoit le renvoi d'un État pour juger un chef de milice qui fait partie de son opposition, bien entendu, ça donne des points d'appui pour un certain nombre de critiques. On va laisser ce problème des critiques de l'auto-renvoi pour une autre session. On va pour le moment essayer de faire de façon très très concrète l'histoire de ce qui s'est passé alors que la cour était en train de s'installer et n'avait pas encore tous ces juges, c'était vraiment les premiers mois d'installation de la cour, lorsque tout à coup le 16 décembre 2003, le gouvernement de l'Ouganda, sous la forme de son attorney général, renvoie devant le procureur la situation qui règne dans le nord du pays. Par ce geste, l'Ouganda disait à la cour, par lettre, « Examinez la situation dans le nord de l'Ouganda, car moi, Ouganda, ou moi, Museveni, son président, je ne suis pas en mesure de le faire. » À réception, à cet instant, le contenu de la lettre de renvoi, sa cible, n'est connue que du président ougandais, de son ministre de la Justice, du procureur de la CPI et du président de cette cour, averti officieusement par le procureur qu'un renvoi venait de lui être adressé à titre confidentiel. Donc, ce qui a écrit dans le mandat de ce renvoi, personne n'est au courant à cet instant. À cet instant, il n'y a sur cette scène que deux protagonistes, les émetteurs de la plainte et des dénonciations nominales qu'elles portent, et leur récepteur judiciaire institué. À cet instant, la question de savoir qui soulève la plainte, à qui cette plainte s'adresse, au sujet de quoi, de qui et pourquoi, n'est pas un objet public, n'est pas plus publiquement soulevée. C'est un acte confidentiel d'un État à une cour pénale internationale. La balle est dans le camp du récepteur judiciaire, le substitut du procureur, en cette affaire, qui va engager un processus qui, dans le statut de la Cour, le statut de Rome, encadre les procédures de vérification de la légitimité, l'égalité de la plainte, et qui va durer, la vérification de la légalité de la plainte, va durer plusieurs dizaines de mois sous deux types de tâches. Celle de la vérification de la légalité, cette lettre est-elle conforme au statut de Rome et la Cour est-elle compétente pour juger des crimes contenus dans cette lettre? Deuxièmement, commence la recherche de renseignements. Le procureur va donc lancer une recherche de renseignements avec ses capacités de renseignement, qui sont les services de renseignement, etc., qui vont lui indiquer assez rapidement ce qui se passe dans le nord de l'Ouganda, jusqu'au moment où, en ayant d'abord, on n'est pas encore dans un vrai moment d'enquête, mais de demande de renseignement auprès d'ONG, de services de renseignement, etc., etc., qui vont donner une première image de la situation. Mais moi, d'un mois plus tard, le 29 janvier 2004, une réunion de presse, c'est-à-dire un format public, cette fois-ci, non plus confidentiel, est organisée à Londres par le procureur général de la CPI, qui vient d'être nommé Luis Moreno Ocampo, et par le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni. Donc, Museveni et Ocampo donnent ensemble une conférence de presse annonçant qu'ils allaient adresser, enfin, qu'ils étaient en train de traiter la rédaction de mandats d'arrêt pour la situation dans le nord de l'Ouganda. Ils annoncent conjointement que des mandats d'arrêt vont être lancés. Et c'est ainsi que fut rompue la confidentialité de la lettre de renvoi et que certains de ces éléments devenaient publics. Le nom des suspects, les crimes dont ils sont accusés, les lieux où ils circulent. Cette annonce publique fait que désormais, l'annonce accusatrice est désormais incontrôlable. Et que cette annonce va susciter des rumeurs en Ouganda et qu'elle peut avoir des effets sur tous les protagonistes impliqués dans la guerre, car l'Ouganda, à ce moment-là, et depuis fort longtemps, est en proie à un ensemble de conflits armés, notamment entre les troupes de l'UPLF, l'armée de Museveni, et l'ordre résistance armée, mais beaucoup d'autres groupes armés aussi, et pas seulement au nord. Mais là, en tout cas, il est indiqué que c'est au nord, et toute la question va être que la presse va faire pression pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, hors du mandat d'arrêt. Or, depuis l'année 2000, le gouvernement ougandais avait mis en place un plan d'amnistie et une loi d'amnistie. Et qu'un certain nombre de combattants de l'ordre résistance armée avaient pu, au titre de cet accord d'amnistie, sortir de ce groupe armé. Et comme je vous l'ai dit, ce groupe armé est fait d'enfants, mais qui ont grandi, qui grandiront et qui grandissent au sein de ce groupe armé. Alors, lorsque Museveni fait une conférence de presse. Ce qu'il fait, c'est qu'il indique qu'il veut prendre une place, c'est un nouveau venu, avec de nouveaux agendas, dans la scène des post-conflits. Donc, dans ce maillage très serré des post-conflits, j'appelle à dessein post-conflits sans qualifier les dispositifs qui sont là, je le ferai tout à l'heure, mais pour le moment, il y a simplement un nouvel entrant avec un nouvel agenda, un type d'exigence particulier, l'enquête, au milieu d'agendas déjà très serrés et déjà en cours. Alors, évidemment, les dispositifs locaux, que ce soit ceux de chefs coutumiers, des différents types d'églises, toutes sortes d'institutions voulaient bien qu'il y ait lutte contre l'impunité tant qu'il s'agissait d'être une réunion de bons enfants des droits de l'homme au sein d'arènes des droits de l'homme à Genève où vous voulez. Mais lorsque tout à coup s'accompagne de sanctions et d'un tribunal la demande d'impunité, l'ensemble du dispositif commence à se dresser contre cette perspective. Et donc, si vous voulez, toute la question va être pour le procureur de se demander quand il va ouvrir et jusqu'à quel point ouvrir le mandat d'arrêt et les documents qui l'accompagnent. Pourquoi ? Vous savez, le système de preuve à la CPI est un système de preuve qui fonctionne de deux façons. Des preuves documentaires, c'est-à-dire les intercepts téléphoniques, entre la LRA, entre les différentes branches de la LRA, les documents signés, le forensic et tout cela. Et puis, deuxièmement, des témoignages. Et pour que des témoins parlent, il ne faut pas que les témoins aient peur. Pour garantir la sécurité des témoins, y compris des insiders, je suis désolée, je suis complètement malade. D'où mon incohérence. Et donc, si vous voulez, cet agenda de l'enquête, de qui a fait quoi, s'agissant même restreinte aux principaux responsables de la LRA, essayer de faire que les enfants soldats, je les appelle les enfants soldats, excusez-moi, je dis ça par, pour que ça aille vite, mais c'est très réducteur de parler comme ça, mais enfin, les enfants enlevés, les enfants soldats, si le procureur veut qu'ils puissent parler en tant qu'insiders, il faudra garantir leur sécurité. Or, le gouvernement ougandais a déplacé l'ensemble des villages d'un très grand nombre, d'une grande partie du nord de l'Ouganda, dans des camps, afin d'assurer la sécurité des personnes. Puisque les attaques de la LRA étaient si violentes que les personnes ne pouvaient évidemment pas rester dans les villages malgré les groupes d'autodéfense. Et par ailleurs, un peu comme ce qui s'est passé en Ituri, le gouvernement n'avait pas trop l'intention de laisser se développer des groupes d'autodéfense dans chaque village, lesquels devenaient autonomes très rapidement et passaient non plus à simplement à l'autodéfense, mais à l'offensive et s'autonomisait. Donc, au fond, il suffit de le procureur, dont tous les gestes sont contrôlés par une cour et qui, à chacun de ces gestes, doit demander, en termes d'impeccabilité démocratique, l'aval de la cour, de la chambre, bien sûr, de la chambre des juges. À chaque geste doit demander l'autorisation de la Chambre dans une requête qui demande une audience ex parte. Pendant ce temps-là, les raids de la LRA, l'action de sortie des pourparlers de guerre, etc., va son rythme à lui, qui n'est pas le temps judiciaire. Et ce que j'ai fait, que je ne ferai pas devant vous, mais mon travail pour cette partie a été de montrer ce qu'a été l'arrivée de la Cour dans un monde plein d'autres types d'exigences, d'autres types de grammaire, de réconciliation, d'autres types d'agenda, si vous voulez. Et la difficulté qu'il y a eu pour elle de demander, comme l'exigeait le statut de Rome, la coopération d'autres États pour l'aider à arrêter les fugitifs, qui, eux, étaient extrêmement mobiles, et d'obtenir la sécurité, la sécurisation des témoins qu'elle pouvait choisir, qu'elle pouvait trouver, en demandant à l'UPDF de les protéger, ce qui n'était pas du tout dans l'intention de l'UPDF. Donc, si vous voulez, devant les critiques faites à la CPI, j'ai simplement essayé, dans ce travail, sur ce petit volet, tout petit volet-là, de regarder au niveau micro-local ce que c'est que l'entrée dans une situation pour une institution de ce type. Je vous remercie.
Alors, maintenant, nous allons entendre Marie-Christine Doran, Université d'Ottawa, qui va nous parler de justice transitionnelle et résurgence de la violence.
Alors, bonjour à tous et à toutes. Si par hasard vous entendez un mot du 16e siècle, vous levez la main, je vous traduis. C'est du québécois. Donc, merci encore aux organisateurs et organisatrices de m'avoir invitée. Je suis très honorée d'être dans ce panel aux côtés de très chers collègues avec lesquels on travaille aussi dans d'autres forums. Donc, en fait, on m'a demandé de vous parler aujourd'hui de la justice transitionnelle à partir des processus du Cône Sud et plus spécialement en fait du Chili, duquel je suis entre guillemets spécialiste, puisque j'écris un livre. Donc, je vais vous parler du Chili avec un regard, en fait, je vais tenter une proposition sur la Colombie. Et j'espère que les collègues pourront me critiquer avec bienveillance malgré tout, puisque je ne suis pas spécialiste de la Colombie, mais il y a des choses extrêmement intéressantes, il me semble, dans ce regard comparatif, pas nécessairement le mien, mais en général dans la comparaison. Donc, c'est pour cette raison que je vais me lancer aujourd'hui. Donc, je voudrais commencer par dire quelque chose qui serait sans doute un peu choquant pour peut-être nos collègues colombiens, c'est que la justice transitionnelle, en fait, qu'on célèbre avec raison, parce qu'il y a beaucoup d'avancées en Colombie, c'est quand même un phénomène qui est tout à fait distinct du droit international des droits humains. Donc, il y a plusieurs spécialistes qui se sont penchés sur la question, notamment Sandrine Lefranc, qui peut-être avait pensé être ici aujourd'hui, qui n'est pas là, Francesca Lessa également, qui travaille sur l'Argentine. Et donc, il faut faire un tout petit peu attention, en fait, de ne pas prendre pour acquis le fait que la justice transitionnelle accompagne nécessairement le droit international des droits humains, va main dans la main avec lui, parce que, justement, l'intention fondatrice de la justice transitionnelle, c'est de trouver des modes de justice qui permettent de ne pas ébranler un système qu'on voit comme fragile. Et donc, nécessairement, l'exigence de justice qu'on pourrait attendre en droit international des droits humains ou en droit humanitaire sera tempérée. Donc ça, c'est très important à mentionner. Pourquoi? Parce que, justement, selon Lefranc, on confond les deux processus. Et souvent, en fait, le droit international ou justement le TPI, ce genre de modèle-là, fonctionne en dépit des recommandations de la justice transitionnelle qui est extrêmement réticente à la tenue des procès parce qu'elle les voit encore une fois comme porteurs de tensions. Parfois, on utilise même le terme de haine. Et on parle de justice punitive, donc vous voyez, tous ces termes-là sont très importants à prendre en note. Et dans l'ouvrage fondateur, en fait, de la justice transitionnelle qui vient du Center for Transitional Justice, qui est établi à New York, Patricia Hayner nous dit, en fait, la justice transitionnelle affirme et vraiment consacre, je cite, « le droit de tous les pays d'être respectés dans leur volonté d'oublier le passé ». Alors, ceci est important à prendre en note, parce que dans des pays qui ont vécu notamment la terreur d'État, c'est problématique, vous comprendrez, d'oublier le passé. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous dire que les outils, et je vais revenir à la Colombie, vous allez voir, je vais faire la part belle à la Colombie, mais quand même, c'est important de prendre ceci en considération, et précisément, même si la Colombie apporte des outils très novateurs, pour ce qui est des groupes armés, on a entendu hier donc nos collègues colombiens nous dire que la terreur d'État, elle, n'est pas l'objet. La terreur d'État qui a existé en Colombie, donc les actions des agents de l'État, de l'armée ou de la police militaire ou autres corps de la force publique, ne sont pas, en tout cas, elles peuvent volontairement aller vers la justice spéciale pour la paix, mais il n'y a pas de mécanisme pour juger, en fait, les crimes. Donc, ceci est important à spécifier. On va y revenir après. Mais ce qui est certain, c'est que dans l'ensemble des processus du Cône Sud, l'Argentine, je vous le dis tout de suite, vous le savez sans doute, c'est un processus qui a renversé l'amnistie, les lois d'amnistie qui avaient été concédées suite à la peur que les militaires se réarment. Et aujourd'hui, donc, on peut tenir des procès en Argentine. Donc, maintenant, le cas de l'Argentine est réglé. Mais au départ, donc, c'est un pays qui lui aussi avait accueilli la justice transitionnelle. Mais je vais quand même vous parler surtout du Chili, qui est l'illustration parfaite, en fait, de cette idée que, d'abord, il faut combattre la justice, puisque au Chili, la loi d'amnistie qui a été léguée, enchâssée dans la Constitution par Pinochet et sa junte, en fait, elle est toujours en vigueur au Chili. Et les avancées du droit international ont permis à certains petits morceaux, comme le crime de disparition forcée qui n'était pas couvert, je vous expliquerai les détails si vous voulez, ou certains cas particuliers d'être jugés, mais ces avancées du droit international ont été combattues farouchement par les gouvernements en place, sauf le gouvernement de Michel Bachelet qui a voulu renverser la loi d'amnistie. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, C'est très important de mentionner cela parce qu'une des conséquences de la prégnance de cette justice transitionnelle contre les avancées du droit international au Chili a été de célébrer le remplacement de toute possibilité de justice par un pardon, en fait, excusez-moi, quelle erreur, par une réconciliation imposée sans qu'il n'y ait jamais aucune demande de pardon de la part des anciens, disons, responsables des violations des droits humains durant la dictature ou de leurs complices civils, qui sont d'ailleurs très nombreux. Et donc, le retour à la démocratie s'est fait dans ce pays avec une constitution qui venait directement de la dictature et dans laquelle était enchâssée la loi d'amnistie. Et jusqu'à ce jour, il y a eu des réformes à la constitution, mais jamais on a touché cette question-là. C'est d'ailleurs une des revendications principales, et c'est très intéressant aussi de le mentionner, portée par la jeunesse chilienne, qui demande, pour une grande partie d'entre eux organisés dans le mouvement étudiant et d'autres mouvements citoyens, une assemblée constituante pour recommencer enfin une démocratie chilienne sur d'autres bases. Donc, en 2003, on a eu au Chili, donc la démocratie arrive en 1990, en fait les premières élections en 1989, et en 2003, on a la première grève générale nationale en démocratie, sur quel thème, devinez, por un Chile justo, pour un Chili juste. L'enjeu de la justice est devenu à ce moment, à cause du premier procès que l'Espagne a tenté de faire à Pinochet, grâce à la persévérance des organisations de droits humains. On dit au Canada, on ne dit pas droits de l'homme, je suis désolée, ça ne se dit pas au Canada. Donc, on fera les débats linguistiques une autre fois. Donc, je vais parler de droits humains, ça c'est certain. Ce procès qui a été, vous vous rappelez sûrement, le gouvernement chilien est intervenu pour sauver Pinochet, hein, au nom de la souveraineté nationale, et ça a déclenché une réaction d'indignation dans une partie très importante de la population. À partir de ce moment-là, en fait, on a assisté à une transformation très importante, puisque la justice transitionnelle au Chili permettait quelque chose de fondamental, c'est de rendre le récit des militaires légitime. Quel était-il ce récit? Il était qu'en fait, l'unité populaire et avant elle les gouvernements progressistes d'Eduardo Frei Père avaient trop favorisé le conflit social, les mouvements sociaux, les demandes populaires et que ceci avait abouti à une polarisation totalement insoluble, une crise politique, une crise économique et que donc la dictature en fait était arrivée un peu pour rétablir les choses. Ce récit, qui donc a été mis en circulation par le régime militaire lui-même, a été largement véhiculé aussi par des élites qui ont pactisé la transition avec les militaires au moment de retour à la démocratie, à l'encontre de toute une partie de la population chilienne qui, elle, risquait sa vie dans les rues pour les grandes protestas pour la démocratie et qui ont été mis à l'écart comme étant trop radicaux, comme dirait Tocqueville, des amants excessifs de la démocratie. Et tous les transitologues, donc, vous le connaissez peut-être si vous êtes familier avec la science politique, la transitologie, selon Christophe Jaffrelot, c'est devenu donc cette discipline de la transition démocratique qui est tout à fait prenant le Chili comme modèle en disant il faut que la transition se fasse de manière modérée, entre élites, et que justement les demandes trop radicales de démocratie soient écartées. Toujours est-il que, donc, dans cet arrangement, on a à la fois une démocratie où on cherche à repousser la participation sociale au nom de la réconciliation, au nom de la sana convivencia, donc une convivialité saine, c'est-à-dire sans conflit social. Et donc, dans cette équation-là, les populations qui revendiquaient au moment des protestas, mais aussi après la démocratie, étaient vues en fait comme des dangers pour la démocratie, des fauteurs de troubles, et donc des lois qui, d'ailleurs, continuent d'être en place au Chili comme la loi antiterroriste, définissent le disturbio público, donc le désordre public, comme un crime passible de plusieurs années de prison. Donc ces lois-là attestent du fait qu'en ne racontant pas finalement ce qui s'était passé durant la dictature, en exonérant entièrement les militaires de toute responsabilité au nom de la stabilité, on permettait, donc sous couvert de respecter le droit du pays à oublier son passé, comme dirait Mme Hayner. Donc, on permettait en fait à cette démocratie extrêmement limitée de s'installer, d'être légitime et d'être même considérée comme un modèle. Donc, moi, pourquoi j'ai fait ma thèse sur le Chili? Parce que j'en avais assez de me faire casser les oreilles avec ce modèle démocratique et ayant été à plusieurs reprises faire du terrain. Je disais, mais attendez, les gens, les poblaciones dans les quartiers marginaux, ils sont extrêmement déçus de la démocratie. C'est quoi ce modèle? Comment ça marche? Bon, bref, histoire d'une thèse qui est loin maintenant derrière. Mais donc, toujours est-il que la justice transitionnelle au Chili et au Brésil aussi. Au Brésil, aujourd'hui, plusieurs connaissent Sergio Paulo Pinheiro, qui est d'ailleurs qui va être l'invité de la FMSH prochainement, qui est un très grand sociologue brésilien, et pour qui, en fait, l'amnistie, l'impunité au Brésil qui a été concédée permet à l'autoritarisme de rester en place sous diverses formes, notamment sous la forme du ciblage de gens considérés comme des menaces, nommément les jeunes afro-descendants qui vivent dans les favelas. Et aujourd'hui, certains auteurs parlent de génocide contre les favelados au Brésil. On va jusque-là, tellement la répression contre eux est systématique, la torture dans les commissariats. Donc, il y a vraiment des pratiques impressionnante, si vous voulez, ou tout à fait effrayante, qui, selon plusieurs donc, spécialistes, proviennent du fait qu'on n'a jamais dit, en fait, cette violence de l'État, moralement, elle doit être condamnée, on doit changer, si vous voulez, et donc cette idée d'un récit où, au Brésil, c'était le cas aussi, en plus, il y a eu des groupes de guérilla au Brésil, même s'ils n'ont pas œuvré très longtemps, en fait, c'est la population qui est responsable de la violence primordialement et qui a susciter la réaction des militaires et non pas donc le contraire. Donc, dans ce sens, est-ce qu'il me reste 5? C'est bon? OK. Mon Dieu, quel cadeau. Donc, merci beaucoup. Donc, bien que, si vous voulez, bon, j'aurais beaucoup d'exemples à vous donner, mais il est certain que longtemps après les débuts de la transition, en fait, à chaque fois que le droit international ouvrait des brèches, qu'on aurait pu, si vous voulez, battre en retraite un peu, ou au point des morceaux d'amnistie, les gouvernements sont intervenus par différents mécanismes. On a créé la Mesa de Diálogo, hein, par exemple, pour demander aux militaires de ceux qui voulaient confesser. On allait empêcher qu'ils puissent être poursuivis pour le crime de disparition forcée qui venait d'être ouvert, et je remercie Yvon Lebotte d'avoir signalé que c'était aussi le travail d'Amnesty International qui a fait reconnaître le crime de disparition forcée comme un crime à caractère permanent. Et donc, à ce moment-là, hop, le gouvernement chilien réagit en refermant, en disant, ben, c'est très bien, donc en fait, hein, d'une certaine manière, on va une revendication qui, depuis très longtemps, était demandée par les familles, mais aussi tout une partie de la population chilienne, retrouver bien sûr les disparus, hein, une forme de crime qui a été inventé durant la dictature argentine et qui s'est largement propagé au sein de la collaboration des pays du plan Condor. Et donc, en présentant ça comme une belle réponse à la demande des familles, hein, de détenus disparus, en fait, le gouvernement essayait d'empêcher, on le sait dans des documents qui ont été écrits aussi, que ces militaires-là soient soumis au procès. Donc, ça n'a pas fonctionné de toute façon, mais simplement pour vous dire également donc, les remises de peine qui ont été faites jusqu'en 2005 aux quelques militaires, il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 10 à ce moment-là, et qui avaient été condamnés par exemple aux États-Unis pour le meurtre de Orlando Letelier, qui était ministre d'Allende. Donc le président Lagos a remis les peines à Manuel Contreras Donaire, qui était reconnu coupable de cet assassinat. Tout cela donc a provoqué beaucoup d'indignation dans la société chilienne, et a fait en sorte que, si vous voulez, on avance sur le plan de la remise en question morale de l'amnistie aux militaires, très, très loin dans ce mouvement que moi j'ai appelé l'exigence de justice, et qu'on puisse enfin entendre la souffrance des victimes de manière très large, puisque les victimes, jusqu'à ce moment-là, étaient considérées comme coupables. Hein, c'est un mécanisme dont Luis López Ouetil, nous parlait hier dans le cas du Mexique et qu'on retrouve souvent, c'est-à-dire donc si vous aviez un disparu dans votre famille, les gens disaient « algo habrán hecho », bon, Ils ont fait sûrement quelque chose où on retrouvait des pancartes qui disaient « Se busca terrorista Manuel González », donc votre fils qui était disparu dans les prisons chiliennes était considéré comme un terroriste. Donc tout ce récit-là, même après, étant donné que la violence d'État n'a pas été condamnée, durant la commission de vérité et réconciliation en 91, l'informe Rettig, on nomme, si vous voulez, les formes de violence, mais il n'y a pas de condamnation morale réelle, au contraire. Les présidents parlent de violence populaire qui nous a amenés au chaos. Donc, c'est extrêmement important de mettre tout ça en place pour comprendre le contexte dans lequel donc, le mouvement, l'exigence de justice, va remettre en question cela. Et donc, finalement, réhabiliter le conflit social qui, hein, selon ce que justement M. Vivorca nous disait hier, le conflit social est la clé dans sa conception, dans la conception tourainienne, même on pourrait remonter à Hannah Arendt, mais je vais en rester là, est le contraire en fait de la violence, c'est la manière de tempérer la violence dans une société. Donc ici, on avait une démocratie qui combattait le conflit social comme étant la cause de la violence. Donc, inverser complètement l'équation. Et donc, avec le mouvement pour la justice, donc malgré l'influence de la justice transitionnelle, qui est toujours très forte, puisque la loi d'amnistie est encore en place au Chili. Et donc, j'ai fait des entrevues à des juges, des avocats qui me disent, c'est incroyable, parce que certains juges ne l'appliquent plus. Mais on n'est pas capable, comme société, de se défaire de cette loi d'amnistie qui est l'héritage le plus pur de Pinochet. Donc, il y a des contradictions. Ces contradictions ne sont pas que symboliques, puisque, donc, j'arrive à ce point très important, le fait de n'avoir pas condamné la violence d'État au Chili, le transfert de la Constitution de 1980, donc en dictature à aujourd'hui, a aussi transféré des lois. La loi antiterroriste qui actuellement donc, a été renforcée en 1997, elle a été modifiée en 2010 pour, en tout cas, au moins soustraire les civils des tribunaux militaires, parce que lorsque vous étiez appréhendé comme terroriste, et ça veut dire par exemple des grèves de la faim, hein, des autochtones, Mapuche, on dit au Canada les autochtones, on dit les indigènes, je crois, en France. Les Amérindiens, les autochtones, ça va? OK, d'accord. Merci. Donc, les autochtones... C'est politiquement correct. Très bien. On veut absolument rester dans le politiquement correct. Donc, ces grèves de la faim qui sont considérées comme des actes terroristes puisqu'elles nuisent au bien-être économique de la nation, ça donne une mauvaise image du Chili. Donc, la loi antiterroriste s'applique encore beaucoup et ça fait que, en fait, le Chili est considéré par la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, et non pas humain, comme parmi les 5 pays d'Amérique latine aux côtés de la Colombie et du Mexique qui criminalisent le plus la protesta sociale, donc les mouvements sociaux. Donc, surprenant peut-être, parce qu'on ne pense pas à cette image-là pour le Chili, mais les chiffres, donc, corroborent ça vraiment grâce à des lois héritées de la dictature. Donc, vous voyez, tout ça n'est pas innocent, n'est pas sans conséquences. Et donc, j'arrive à ma petite comparaison avec la Colombie. Suite donc à ces amnisties qu'on appelle dans le langage jargonneux des blanket amnesties, donc des amnisties couvertures qui recouvrent le passé au complet. C'est une belle image, n'est-ce pas? La blanket. Donc, ces amnisties, les tenants de la justice transitionnelle nous disent, ben là, attendez, mais ce n'est plus le cas, on ne fait plus ça maintenant, on a des outils beaucoup plus justement adaptés. Et ce n'est pas faux. Effectivement, si on regarde donc la Colombie, qui constitue vraiment un cas emblématique à tel point que j'ai une étudiante qui a fait sa thèse en droit et qui travaille sur l'Irlande du Nord. Et lorsqu'elle disait, je travaille sur la justice transitionnelle, tout le monde lui disait, oh, tu travailles sur la Colombie. Et puis elle disait, non, sur l'Irlande du Nord. Elle était très vexée parce qu'elle en avait marre que tout le monde lui dise, ah bon, c'est pas très intéressant. En fait, on espérait que tu allais travailler sur la Colombie. Donc, la Colombie est vraiment un cas important d'innovation. Ça, c'est absolument important de le dire. On en a beaucoup discuté hier par rapport au groupe armé. Mais il y a un constat, en fait, qui est frappant de l'extérieur, comme comparatiste, c'est que, justement, les avancées de la justice transitionnelle en Colombie concernent seulement les groupes armés. Et l'État, d'une certaine manière, bon, il a beaucoup de choses à faire, ce pauvre État colombien, on en convient, mais se retrouve dans une sorte de rôle d'administrateur de la justice pour les autres. Et donc, ce faisant, il y a une part de responsabilité des agents de l'État qui demeure relativement invisibilisée et qui, actuellement a des conséquences, par exemple. Donc, moi, j'ai couvert pour les médias canadiens le conflit de Remedios y Segovia, où il y a eu une grève très importante, une grève générale dans une région où il y a des petits producteurs artisanaux d'or qu'une méchante compagnie minière canadienne, vous connaissez les méchantes compagnies minières canadiennes, voulait empêcher donc de produire leur or. Et donc, dans ce cas-là, le gouvernement colombien a envoyé l'ESMAD, donc la police anti-troubles sociaux, et il y a eu donc deux morts et plusieurs blessés. Trois minutes, c'est bon, j'ai presque fini. Donc, vous connaissez aussi peut-être la situation très, très dramatique dont on a parlé hier, depuis donc la fin du conflit officiel, du conflit armé en Colombie. On a 200 leaders sociaux. Notre collègue Andrés Suárez, je ne sais pas s'il est là, écrit un article fabuleux sur ça, en montrant d'ailleurs que ce sont des gens qui sont avant tout des défenseurs de la participation citoyenne, tout simplement. Donc, ce sont vraiment des gens qui travaillent à bâtir la démocratie, qui sont visés par cette vague d'assassinats. Et donc, on voit actuellement que la stigmatisation des leaders sociaux, qui était un problème durant le conflit armé colombien, se poursuit d'une certaine manière. Et bien sûr, ces gens-là ne sont pas tous tués par la police, très loin de là. Absolument, ce n'est pas ce que je vous dis, il y a des cas extrêmement complexes. Mais il y a quelques cas, comme à Remedios y Segovia, où les gens sont encore victimes de détentions arbitraires, d'une stigmatisation qui va d'ailleurs faciliter le fait que, après, d'autres groupes d'anciens paramilitaires ou des Bakrim ou d'autres vont dire « Ah ben ça, c'est des ennemis, on les liquide ou on leur fait du tort ». Toujours est-il que, actuellement, donc, bien que, évidemment, les exécutions extrajudiciaires soient beaucoup moins nombreuses que durant le conflit armé, il y a quand même quelque chose de troublant à ce niveau-là, qui est que, selon Sébastien Lalinde, qui est un juriste qui travaille au Centre de Justicia, il y a une augmentation importante dans l'achat d'armes par la police troubles sociaux, l'ESMAD, et qui sont utilisés pour la répression des mouvements sociaux, notamment. Donc là, Lalinde signale que, d'ailleurs, ceci a eu une conséquence importante, qui est que, donc, on a une baisse importante de la légitimité de la police colombienne, qui est actuellement à 35%, en fait, qui était à 35% à la fin au début de l'année 2017, versus 46% de popularité ou légitimité en 2012 et 54% en 2004. Donc, on a quand même un impact important. Et ceci malgré le fait que notre collègue Eduardo Pizarro mentionnait hier que l'armée colombienne, elle, semble vraiment changer ses tactiques au niveau de la police qui est chargée du contrôle des manifestations et donc du conflit social et de sa légitimité. Vous me voyez venir avec mes parallèles avec le Chili. Elle continue d'appliquer, de traiter les mouvements sociaux comme des ennemis. Et donc, j'ai eu accès, je finis là-dessus, à des données qui ont été recueillies par Victor Barrera, qui est un chercheur au CINEP et qui travaille dans le cadre d'un projet spécial de monitorat, en fait, de la force publique en Colombie. Victor Barrera nous dit, malheureusement, ces patterns-là sont des patterns ou des, je ne sais pas si on dit ça en France, excusez-moi, des modèles récurrents, voilà. Merci, vous comprenez, vous m'avez compris. Des patterns, exact. C'est vrai, mais je sais, de toute façon, je suis condamnée d'avance. Mais bon, vous m'avez invitée quand même, donc. Mais donc, selon Barrera, en fait, tout ça vient du fait que durant le conflit armé, on criminalisait, on pénalisait, et on éliminait les mouvements sociaux. Et il a apporté des chiffres extrêmement intéressants sur lesquels je voudrais vous laisser. Donc, entre 2000 et 2015, c'est sûr et certain qu'au niveau des violations des droits humains et du droit humanitaire international, les paramilitaires arrivent en tête avec 10 652 violations. Si ça ne vous fait rien, c'est sûrement peu par rapport à ce qu'ils ont commis. La force, par contre, qui arrive en deuxième lieu, c'est la force publique, avec 9173 violations pour 6225 interventions, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs types de violations graves des droits humains qui se produisent. Et à titre de comparaison, les FARC 4314 dans ce cadre, ce type de violation-là. Donc, ce que dit Barrera, d'ailleurs, c'est que la distribution géographique de ces violations des droits humains correspond sur la carte aux zones où on soupçonne les gens d'appuyer les FARC ou d'appuyer le LN ou d'appuyer des groupes finalement de gauche, et que dans certaines zones, on n'a presque aucune violation des droits humains, en fait, pour infirmer l'idée que ce sont des bavures, des policiers qui se sont un peu laissés aller à taper sur les gens aléatoirement. Cette journée-là, ils étaient de mauvaise humeur, ils ont tué deux personnes. Non, c'est pas du tout ce que les chiffres du CINEP montrent. Et donc, en conclusion, je voulais simplement proposer à la discussion l'idée que la non-reconnaissance ou la faible reconnaissance, en tout cas de l'extérieur, du gouvernement colombien de ce problème, tout en valorisant énormément les acquis qui ont été faits au niveau de la justice transitionnelle pour les groupes armés, demeure un problème parce que cette conception du conflit social, on sent qu'elle est encore vue comme une menace pour la police. Et ceci a des conséquences évidemment très importantes en termes de vie humaine, mais aussi de légitimité de l'État, dont on parle avec raison du gouvernement Santos, de la fragilité. Et donc, il me semble que c'est quelque chose sur lequel on devrait pouvoir agir en regardant aussi d'autres exemples. Donc, merci beaucoup.
Alors, je donne la parole à Sophie Davio, Sciences Politiques ex. On dit ex? Ouais. Procès et reconstruction de la mémoire historique de la violence en Colombie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup à Yvan Lebot, à la FMSH pour l'invitation, et beaucoup de plaisir aussi à partager à nouveau avec mes collègues. Alors, je vais revenir, continuer à vous parler de la Colombie, aujourd'hui uniquement sur la Colombie, et d'un sujet que sur lequel j'ai commencé à travailler, qui recoupe un petit peu les travaux d'Elisabeth Clavery sur les procès. Et donc sur la question de ce modèle de justice transitionnelle dont parlait Marie-Christine Doran en Colombie, ou ce prétendu modèle de justice transitionnelle. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la question en Colombie uniquement des procès des paramilitaires, mais sous un aspect, sous un angle que j'essaie de regarder depuis quelque temps, c'est l'impact de ces procès, ce que ces procès apportent de plus à la reconstruction de la mémoire historique en Colombie, qui est déjà un objet amplement travaillé par le Centre de mémoire historique et d'autres centres de recherche en Colombie. En quoi ces procès, le travail des juges notamment, des magistrats, représente-t-il un apport à la reconstruction de la mémoire du conflit, ou du moins d'une partie du conflit? Qu'est-ce qui nous offre de nouveau ces procès? On a tellement d'informations, tellement déjà de travaux en Colombie, excellents, produits par les universitaires, les centres académiques, les ONG de défense des droits humains ou de l'homme, bref, tellement d'informations. Et j'essaie de regarder un petit peu justement quelle était la nouveauté introduite par ces procès à travers un angle d'observation, puisque il y a énormément de procès qui ont été ouverts, qui n'ont pas tous abouti à des sentences, mais pour l'instant plus d'une centaine de sentences de condamnation des paramilitaires. Donc j'ai travaillé sur un procès en particulier, celui d'un des chefs paramilitaires du nord de la Colombie, qui est Salvatore Mancuso. Donc, je vais très très peu parler là, parce que je vais essayer de recadrer sur l'essentiel de ces procès. Et je vais m'intéresser aussi, en dehors de ce que ces procès apportent de nouveau par rapport au récit sur la violence en Colombie, à l'articulation aussi aux travaux universitaires, à la manière dont le matériau qui est produit, qui est discuté dans le cadre des enceintes judiciaires, contribue à alimenter à son tour des travaux universitaires, des travaux sur la construction de la mémoire historique, notamment par le Centre de mémoire, mais également d'autres travaux. Alors, pour commencer sur le procès de Salvatore Mancuso. Donc, ce sont des procès qui ont débuté au milieu de l'année 2006 en Colombie, donc qui ont duré, qui ne sont pas terminés hein, pour la plupart. En tout cas, pour celui de Salvatore Mancuso, ils ne sont pas terminés. Mais pour analyser ce processus, j'ai choisi de m'intéresser essentiellement à des témoignages des juges chargés de ce procès et aux matériaux qui étaient produits par ces juges, en l'occurrence à des sentences de condamnation. Il se trouve que dans son cas, on a déjà deux sentences de verdict, hein, deux sentences de condamnation en octobre 2014, en novembre 2014, en dehors d'une sentence aux États-Unis, mais qui est liée à des crimes pour narcotrafic, donc je ne vais pas m'intéresser aujourd'hui. Alors, il y a, je vous disais, énormément déjà de matériaux sur la violence paramilitaire en Colombie, notamment beaucoup produits par le CINEP ou par les ONG de défense des droits humains depuis les années 90, fin des années 80, avec les premiers grands massacres de la fin des années 80 qui ont documenté énormément de cas. Sur le projet paramilitaire en lui-même, ces sentences, il me semble, apportent effectivement de nouveaux matériaux. En dehors aussi des matériaux des organisations internationales, notamment la Cour interaméricaine des droits de l'homme, les matériaux aussi produits par la vice-présidence de la République colombienne, etc. Donc, qu'est-ce qu'elle semble nous apporter de plus, ces verdicts judiciaires ? Eh bien, tout d'abord, un élément qui est un travail sur le contexte d'émergence de ces groupes qui est extrêmement fin et qui se produit en Colombie dans un contexte de version qui demeure actuellement, enfin pour ce que j'ai pu observer, pluriel du conflit. On est face à des formes de narrativité. Là, en l'occurrence, j'ai juste deux sentences, mais c'est extrêmement intéressant de voir que cette pluralité, elle continue à exister en ce qui concerne les paramilitaires. Les récits produits dans l'enceinte judiciaire et qui sont liés à Salvatore Mancuso, ils montrent qu'il n'y a pas une vision unique de pourquoi l'émergence du phénomène paramilitaire en Colombie, comment ces groupes se sont organisés, ni même de qui est Salvatore Mancuso dans les AUC et du statut qu'il aurait et du degré de contrôle qu'il aurait dans ces groupes. En fonction des juges, autrement dit, pour aller très très vite, on a des versions assez différentes. Alors, la plupart des sentences se regroupent sur un certain nombre de données quand même communes. La plupart des sentences qui ont été proférées depuis la première qui a été prononcée en juin 2010 par une juge qui s'appelle Uldi Teresa, qu'Eduardo m'avait permis justement de rencontrer à Bogota, qui est extrêmement intéressante puisqu'elle elle a produit une sentence dans le cas de Mampuran qui a vraiment... comment on dit en français, qui a vraiment établi une sorte de précédent. Tous ces juges, ils ont essayé de montrer comment il y avait des lois qui encourageaient, hein, depuis l'État, pour reparler de l'État colombien, évidemment, la création de ces groupes paramilitaires depuis 1965, comment, sous la présidence de Gaviria, les organisations qu'on appelle les Combivir en Colombie ont permis une expansion formidable de ces réseaux paramilitaires. Les paramilitaires, en passant aux aveux, hein, un certain nombre d'entre eux ont reconnu qu'ils avaient pu s'armer dans le cadre de ces Combivir. Et beaucoup de juges, comme Eduardo Castellanos, affirment que ces organisations ont constitué des façades derrière lesquelles les groupes paramilitaires n'ont fait que consolider leur expansion. Donc, autour de ça, il y a une espèce de terreau, hein, de vision relativement homogène qu'on rencontre plus ou moins de sentence en sentence. Mais en revanche, il y a différentes visions concernant l'origine de ces autodéfenses, leur configuration et surtout le degré de responsabilité de l'État colombien dans tout ça, notamment dans une décision concernant le bloc Nutibara, dans la, à Medellín, un des magistrats qui s'appelle Dario Pinilla a le premier parlé de responsabilité étatique et de phénomène très fort de responsabilité de l'État dans la conformation de ces groupes, en montrant comment les militaires avaient appuyé ces groupes paramilitaires, comment ils avaient promu ces groupes et comment, je le cite, tout cela s'était converti en une politique dictée, financée, permise, facilitée par les hauts commandements militaires. Par ailleurs, ce qu'on remarque aussi de sentence en sentence, c'est que petit à petit, le récit sur l'émergence des paramilitaires s'est affiné. Et s'est éloigné du récit fondateur, des espèces de mythes fondateurs qui est repris et avancé par les frères Castaño, qui mobilisent notamment l'histoire de la vengeance, de la mort de leur père, etc., pour expliquer l'émergence dans le département de Córdoba de leur groupe paramilitaire. Et petit à petit, on a des récits de l'émergence de ces groupes qui vont différer, bien évidemment, de ce récit de l'enlèvement et du postérieur assassinat du père des Castaño par un front des FARC qui aurait suscité l'émergence des paramilitaires. Donc tout ça, ça a conduit les magistrats à amener des recherches beaucoup plus élaborées, beaucoup plus fines des contextes dans lesquels ces groupes ont opéré, et pour explorer aussi leurs motivations. Des recherches beaucoup plus fines, c'est-à-dire que maintenant, de région en région, on va avoir des sentences qui vont s'efforcer de spécifier à chaque fois l'origine des paramilitaires. Dans le nord du Santander, par exemple, une des magistrates, qui s'appelle Alexandra Valencia Villa, relie la conformation des paramilitaires et leur motivation aux problématiques de l'industrie, de la monoculture de l'huile de la palme, toutes les motivations commerciales de l'industrie de l'agrobusiness derrière ces groupes paramilitaires. Donc on a des visions qui s'efforcent de montrer comment spécifiquement, régionalement, on a une histoire qui est à chaque fois différente, complexe de ces groupes et de ces formations-là. Maintenant, je reviens au cas de Salvatore Mancuso. Dans le cas des deux sentences qu'on a et qu'on peut lire et connaître actuellement, qu'est-ce qu'on peut observer et en quoi ces sentences me semble un matériau très intéressant pour les universitaires, mais aussi pour le citoyen colombien, pour en apprendre davantage sur ces groupes. La première chose, c'est que le juge apporte de nouveaux éléments sur les relations très étroites entre les AOC et les militaires. Dans le cas de la sentence sur le bloc Catatumbo, concernant Salvatore Mancuso. La version de l'accusé, donc de Mancuso, montre comment des secteurs des forces armées qui ont permis à Mancuso de servir de guide d'abord à l'armée, de devenir un informateur d'une brigade de l'armée, et puis comment un major de l'armée, qui s'appelle le major Frattini, va ensuite l'organiser à créer avec des propriétaires terriens sa première structure paramilitaire pour se défendre de la guérilla. Donc il affirme très clairement que son arrivée dans la région du Catatumbo n'aurait pas été possible sans l'appui des commandants de la première, de la deuxième division de l'armée. La juge, qui reprend en partie sa version, déclare dans sa sentence que l'armée colombienne a facilité l'incursion des autodéfenses dans différentes régions de la Colombie. Et s'appuie aussi, ce qui est intéressant dans les sentences, sur les nombreuses versions d'autres paramilitaires, notamment de Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, qui dit « Je ne crois pas qu'il y ait une seule région du pays où a surgi un groupe paramilitaire et il n'y aurait pas eu une relation directe entre ce dernier et la force publique. Une traversée de 800 km pour arriver dans le Catatumbo qui était donc amplement facilitée. » D'autre part, ces sentences nous en apprennent beaucoup sur les écoles de formation des paramilitaires. Ça, c'est quelque chose de relativement nouveau sur lequel on avait peu d'analyse jusqu'à présent. Et sur la manière dont la plupart des ex-combattants, des paramilitaires qui ont fréquenté ces écoles, pour certains, proviennent de l'armée nationale colombienne. Ce sont des gens qui ont ensuite, pour différentes bavures souvent qu'ils avaient commises, qui sont passés de l'armée au paramilitaire et qui ont ensuite formé des jeunes paramilitaires. On apprend aussi comment des gens des services de renseignement colombiens ont servi d'instructeurs dans ces écoles-là, en donnant très très clairement, et ça ce sont les témoignages de Mancuso, les noms, les photos des militants sociaux, des militants des ONG, de Piedad Córdoba, des militants politiques, etc., qu'il s'agissait d'assassiner, qui étaient donc des cibles de ces organisations. Donc une collaboration très très étroite. On apprend aussi dans ces procès, ces procès ont aussi levé le voile, en partie, c'est pas simplement eux, mais sur tous les liens entre ce qu'on appelle en Colombie la parapolitique, le phénomène de le personnel politique, et le lien entre ces personnels politiques et les paramilitaires. Je détaille pas, mais dans le procès de Salvatore Mancuso, on a aussi des preuves dans le sens de deux hommes politiques du département de Córdoba et du financement de la réélection du candidat, de l'ex-président Uribe, par les paramilitaires de Salvatore Mancuso. Donc énormément d'informations et un aspect aussi nouveau de ces sentences qui touche aussi au rôle d'accompagnement et de renforcement du paramilitarisme par certains acteurs de la société civile colombienne, notamment des syndicats, des associations professionnelles comme la Fédération des éleveurs, des financeurs du paramilitarisme, des informations très très détaillées sur lesquelles je ne peux pas rentrer en détail, mais dans le cas du Catatumbo et aussi de la deuxième sentence. Et une analyse aussi du tribunal qui porte sur le rôle des médias et sur la façon dont les médias colombiens, à partir du... des interviews qui avaient été données par l'ex-leader des paramilitaires Carlos Castaño dans ces médias, comment ils ont permis au paramilitarisme, ces médias-là, de publier, de filmer des entretiens des chefs des autodéfenses et finalement à ce discours de devenir politically correct en Colombie, de devenir acceptable, ce discours anti-subversif et en partie de le légitimer. Et certains des magistrats vont jusqu'à condamner un certain média, c'est le cas de Dario Pinilla à Medellín, pour leur appui au paramilitarisme. Alors, comment je termine sur cet aspect-là, il y a énormément d'aspects novateurs dans ces sentences, mais comment ces révélations des paramilitaires et ces sentences des juges nourrissent à leur tour des recherches académiques, des recherches de journalistes en Colombie. Alors, il n'y a pas encore, il me semble, à mon sens, de directives précises concernant ces instances judiciaires colombiennes et le traitement de cette masse d'informations qui a été accumulée lors de ces procès en Colombie. Il semble que le Centre national, mais Maria Emma pourra nous en dire plus, de la mémoire historique, sera chargée de préserver une partie de ces archives judiciaires et d'ouvrir prochainement ces archives au public. Mais il existe pour l'instant un portail en Colombie qui s'appelle Verdad Abierta, qui a été créé par une journaliste qui s'appelle Maria Teresa Ronderos et qui a, depuis 2009, retracé sur la base de toutes ces audiences, toute l'histoire du paramilitarisme en Colombie et fait un travail absolument formidable pour retranscrire pour le citoyen commun et divulguer, si vous voulez, le contenu, toutes ces informations qu'il faut bien dire quand on se situe dans les tribunaux, etc., sont difficiles à suivre, longues, souvent éreintantes, etc., pour suivre au plus près ces procès et en constituer un matériau de très grande valeur. Et c'est de là qu'est né son ouvrage également, qui s'appelle donc Guerre recyclée, Guerra Reciclas, en Colombie, où elle aboutit à une reconstruction de l'histoire du paramilitarisme colombien et où, je dirais, la valeur ajoutée, c'est de compter sur ce formidable matériau des audiences aux paramilitaires pour nous raconter cette histoire, l'incursion, renforcement, l'expansion des groupes paramilitaires en Colombie. Elle affirme, et je la cite en conclusion, que ces cycles violents qui se reproduisent en Colombie, hein, et c'est une interrogation centrale de l'ouvrage, pourquoi les Colombiens répètent-ils ces cycles violents ? Ces cycles violents en Colombie et le pouvoir démesuré qu'ont accumulé ces jeunes villageois de peu d'éducation provenant d'Amalfi, pour ce qui est des Castaños, on ne peut pas l'attribuer seulement au narcotrafic, à l'idéologie, ni encore moins à des problèmes éthiques personnels. Leur pouvoir a fleuri sur le terrain abandonné par un État inopérant, ce qui est bien pire qu'un État absent. Alors, outre ces travaux, et juste un tout petit mot pour terminer, ces sentences servent aussi à alimenter le travail de reconstruction du centre de mémoire historique, dirigé donc par Gonzalo Sanchez, qui a déjà publié plusieurs ouvrages sur ces procès, notamment un des ouvrages qui avait été coordonné par Ivan Orozco. Et par ailleurs, les témoignages des paramilitaires ou des victimes ont alimenté différentes publications thématiques de ce centre. Enfin, la future commission de la vérité en Colombie, dont j'imagine il était déjà question hier, créée donc par ces accords de paix signés avec les FARC en novembre 2016, aura pour tâche de travailler sur la mémoire historique des documents judiciaires provenant des procès de justice et paix avec les paramilitaires, mais également de ceux qui vont débuter au sein de la juridiction spéciale des FARC. Malheureusement, pratiquement pas de procès, puisque pratiquement pas de procès des secteurs qui ont collaboré avec le paramilitarisme, puisque ce procès, l'accord partiel de justice et paix a été modifié par le Congrès colombien, qui a donc réélaboré en partie, redessiné cet accord de justice et paix en modifiant une partie qui est extrêmement importante, c'est-à-dire en stipulant que ces tribunaux spéciaux de justice et paix dans le cadre des FARC, que les FARC avaient souhaité devant lesquels les FARC avaient souhaité voir comparaître aussi des militaires, des entrepreneurs, des civils qui auraient collaboré avec les paramilitarismes, ne pourraient pas jouer ce rôle-là et que les civils ne comparaîtraient que s'ils étaient volontaires, avec des arguments juridiques que je vous passe ici. C'est-à-dire qu'une grande partie du design, du format de cette juridiction spéciale de paix qui a été voulue par les FARC, et c'est évidemment contesté par les FARC aujourd'hui, qui s'en remettent au procureur de la CPI, se limiterait de juger les FARC. Donc malheureusement, là, c'est tout un travail de reconstruction de mémoire historique qui risque de laisser rester complètement, malheureusement, dans l'ombre, enfin, moins pour ce qui est de la commission de vérité.